t'attaches à ton lit. Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Les couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cœur. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour, et aujourd'hui avec Sylvie du groupe Libertaire d'Ivry.
Oui, bonjour.
Pour parler du livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. Martin Winkler, qui a exercé la médecine générale en France de 1981 à 2008, romancier, essayiste et critique, il est l'auteur de La maladie de Sark, Le cœur des femmes et Les histoires de Franz. Il vit désormais au Canada, où il participe à la formation de futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Donc, dans ce livre, Martin Winkler relate des exemples de maltraitance médicale et commente ces maltraitances, évidemment. Voilà, je rejoins donc Sylvie tout de suite au micro, mais auparavant une petite brève.
Est-ce que je peux avant faire une petite annonce ?
Eh oui, alors une annonce.
Oui, c'est donc le groupe Libertaire d'Ivry organise le dimanche 14 septembre une projection discussion. Hein, on ne fait jamais de conférences, donc c'est tout. Quand le film est terminé, on en discute ensemble. C'est La ferme des animaux, un dessin animé qui est très ancien. Je ne sais plus, il est vraiment très bien, même du point de vue, hein, toi qui l'as vu, Denis. Ça vaut même Walt Disney, hein, au point de vue qualité de dessin
d'animation,
animé.
D'animation, oui, c'est vrai.
Et donc, c'est d'après La ferme des animaux de George Orwell. Et en fait, on peut tout à fait... D'ailleurs, je crois que tu avais peut-être été le voir avec Gaspard, toi, de ton côté. Moi, j'étais allée le voir avec mes enfants. On peut tout à fait le voir avec les enfants, même si, en fait, la discussion après... Peut-être qu'ils pourraient en parler, hein. Bah, remarque, ils ont bien des choses à dire sur les abus de pouvoir, hein, ne serait-ce qu'à l'école, etc.
Donc, c'est vrai que c'est pas un scénario à la Disney, mais ça évoque la lutte des classes.
Mais il est vraiment très très bien, et donc le scénario est pas exactement, il est carrément modifié. Puisque à la fin, les animaux gagnent contre les cochons qui sont en fait des staliniens, et après avoir gagné contre le fermier. Donc c'est comment lutter, le thème de la discussion sera comment lutter contre tous les abus de pouvoir, fascistes, démocratiques entre guillemets, ou communistes autoritaires.
Voilà. Donc je vous rappelle que George Orwell, c'était aussi l'auteur de 1984.
Voilà, merci.
Et
donc c'est Publico, j'ai oublié de le dire, c'est la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, République Fille du Calvaire, et évidemment l'entrée est libre. Voilà. Et c'est à 15h, l'accueil à partir de 15h et la projection grosso modo vers 16h, dimanche, donc dimanche 14 septembre.
Alors, une brève qui vient de la petite brochure Résistons Ensemble, numéro 223 du 4 juillet 2025.
C'est quoi cette brochure ?
C'est une petite brochure qui est, voilà, donc c'est, on est au numéro 223, donc ça existe depuis longtemps. C'est une brochure qui dénonce les maltraitances policières, les maltraitances sévères, je veux dire. Et voilà.
Ça se trouve où?
Alors oui, ça se trouve où? Par l'intermédiaire de Paris Lutte Info, on peut trouver en format numérique.
D'accord.
Résistons ensemble. Encore une façon de mourir. C'est l'histoire de cet homme de 35 ans, visiblement en état d'urgence psychiatrique, qui, faute de réponse humaine, finit sa route face à la police. Il est 3h du matin, dans la nuit du 9 avril, dans le 11e à Paris. L'homme est très agité, pieds nus, parle tout seul, se jette devant les voitures, s'en prend aux passants. Une équipe du SAMU social en maraude sollicite l'aide d'une patrouille de police arrêtée au feu rouge, qui répond « Ça tombe bien, ce soir, moi aussi je suis agressif ». Les travailleurs sociaux sont alors les témoins d'une intervention très violente. Prise d'étranglement arrière, usage du taser à 3 reprises au moins, dont l'une alors que l'homme était déjà au sol, entravé. Coup de poing au visage et dans les côtes afin d'obtenir son identité. L'homme est transporté en réanimation, puis déclaré mort le jour même. Fin de la brève. Je te rejoins maintenant pour qu'on parle de Brut en Blanc de Martin Winkler.
On en a lu combien de chapitres déjà? Tu dirais grosso modo.
Un seul, mais il y avait une introduction et une longue introduction qu'on a lue aussi. Oui, l'introduction, d'ailleurs, je peux le rappeler, c'était ce qui devrait être une médecine non maltraitante. En fait, on avait même cité quelques textes de loi, etc. Alors, chapitre 2, des médecins ennemis de la liberté. Comme je l'ai déjà précisé, écrit Martin Winkler, je peux préciser que c'est un livre qui a été édité en 2016.
Ben, il est tout à fait trouvable maintenant. Vous pouvez le trouver à la librairie Publico, justement.
Dépôt légal, octobre 2017.
C'est ça, il n'est pas du tout épuisé. Hein. Vous pouvez le trouver à Publico.
Comme je l'ai déjà précisé, beaucoup d'exemples dans les pages qui suivent concernent la gynécologie. Mais comme on le verra plus loin, l'attitude de nombreux médecins à l'égard des femmes est parfaitement représentative de celle d'une grande partie du corps médical à l'égard de tous les patients. Les jugements de valeur assénés par certains médecins ne se limitent pas au corps des patients et patientes. Ils concernent aussi, inévitablement, leur choix de vie. Et sur ces points, beaucoup de praticiens se comportent en ennemis de la liberté individuelle ou, au moins, en défenseurs virulents du conformisme social le plus réactionnaire. Lorsque j'étais attaché au centre d'IVG du Mans, j'ai souvent entendu des femmes me dire à quel point leur généraliste ou gynécologue s'était posé en juge lorsqu'elle lui avait dit qu'elle souhaitait interrompre une grossesse. Au point qu'elles ne voulaient pas du tout qu'on envoie le compte-rendu de leur IVG à ce médecin, et préféraient revenir parfois de loin consulter au centre plutôt que retourner le voir. 40 ans après la loi Veil, des femmes adultes s'entendent encore dire qu'elles ne devraient pas interrompre leur grossesse parce qu'elles pourraient le regretter plus tard, qu'elles devraient bien réfléchir, qu'elles sont égoïstes et devraient penser à celles qui n'en ont pas. Tous ces, entre guillemets, arguments sont grotesques. Les médecins n'ont pas le pouvoir de dire ce qu'un individu regrettera ou non. Les femmes qui décident d'interrompre leur grossesse ont toujours eu largement le temps de réfléchir. Et la maternité n'est pas un phénomène de vase communicant.
D'ailleurs, je signale par rapport à cet argument, on pourrait le regretter. C'est particulièrement le cas, par exemple, pour des gens qui... j'avais une copine, par exemple, et même moi, à un moment donné, j'avais envisagé de me faire stériliser, tu vois. Bon, comme tu sais, j'ai deux enfants, dont un qui doit faire 2 mètres de haut. Donc, en effet, je l'aurais regretté, mais ça me regarde. Tout simplement. Ça me regarde, tu prends des décisions. D'ailleurs, effectivement, quand tu fais un enfant, tu peux le regretter aussi. La différence, c'est que quand t'en fais pas ou quand tu veux pas en avoir, il y a personne qui subit tes regrets, quoi. Tu vois, tu dis, mais faire un enfant aussi, c'est quand même un peu définitif, quoi, tu vois. Et on te dit pas, vous avez bien réfléchi avant de faire un enfant, tu vois. Et c'est vrai aussi en ce qui concerne, par exemple, les gens qui veulent faire une opération, tu sais, les transsexuels, quoi, par exemple. Et déjà, il faut, de toute façon, il y a tout un processus. Je sais pas ce qu'il en est maintenant pour la stérilisation en particulier. Et je ne sais pas ce qui se passe quand un homme veut se faire une vasectomie définitive, tu vois. Mais cet argument, tu pourrais le regretter, ben c'est ça la liberté. Ça veut dire, c'est que tu te dis, ouais, peut-être je pourrais le regretter, ça me regarde. Et d'ailleurs, ça peut aller même plus loin, puisque sur l'idée du suicide, tu dis que, ou tu vois, de vouloir mourir et tout, tu vois, dans la dignité ou mourir tout court, ben c'est aussi toi que ça regarde, c'est ton corps. Ouais, peut-être tu vas le regretter, mais même si tu le fais sans réfléchir, t'as le droit de faire ce que tu veux à ton corps sans réfléchir. Il appartient pas au bon Dieu, il t'appartient à toi. Voilà.
Donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans lieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et donc je poursuis la lecture des Brutes en blanc de Martin Winkler. Donc de nombreux médecins généralistes ou gynécologues, hommes ou femmes, semblent savoir mieux que les femmes elles-mêmes ce qu'elles doivent faire de leur vie. Alors, titre du deuxième sous-chapitre, « Les femmes comme vous, ça devrait se faire soigner hein, », entre guillemets, c'est une citation. Cible actuelle récurrente de la violence verbale des médecins, les personnes qui souhaitent une stérilisation par ligature de trompe ou méthode Essure pour les femmes ou vasectomie pour les hommes. Depuis la loi du 4 juillet 2001, toute personne majeure peut se faire stériliser volontairement. Seule condition, avoir été dûment informée des risques médicaux et des conséquences de l'intervention et respecter un délai de réflexion de 4 mois. Le texte précise « Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive » mais il doit informer l'intéressé de son refus dès la première consultation. Il n'autorise nullement, en revanche, le médecin à dissuader, humilier, insulter ou menacer, ni bien entendu à mentir. C'est pourtant ce type de réponse que rencontrent aujourd'hui les personnes, hommes et femmes, qui font cette demande. 15 ans après la promulgation de cette loi, de très nombreux gynécologues obstétriciens, il s'agit toujours d'eux dans ce cas précis, puisque seuls ces spécialistes peuvent pratiquer ladite intervention, continuent à la refuser, quelle que soit la situation et la détermination des femmes. Ils n'ont toujours pas compris que, depuis que la loi le permet, il en va de la stérilisation volontaire comme de l'IVG, la femme qui la demande n'a pas à se justifier. L'argument le plus souvent invoqué pour motiver le refus est à hurler de rire. Se faire stériliser est une décision trop radicale. Vous ne pourrez pas changer d'avis. On pourrait, comme le font certaines patientes avec beaucoup d'à-propos, leur faire remarquer qu'avoir un enfant est tout aussi radical.
Voilà, on est bien d'accord. Et je rappelle une fois de plus, parce que ceux qui n'avaient pas suivi la dernière fois, on n'a jamais lu ce bouquin. On le découvre, oui. Tu le découvres tous les deux pendant que tu le lis. Là.
Voilà. Exactement. Donc, voilà, avoir un enfant est tout aussi radical et il n'est pas non plus possible de changer d'avis une fois qu'il est né. On pourrait également souligner qu'une femme qui prend la décision d'avoir des relations sexuelles, de se marier ou de divorcer, de mener une grossesse à terme ou d'avorter, d'exercer une profession, de payer loyer et impôts, d'acheter une maison, de conduire une voiture, de voter et même, quand ça lui chante, de consulter un obstétricien, n'est pas moins capable de décider de se faire ligaturer les trompes au jour et à l'heure de son choix. On pourrait enfin leur apprendre, puisqu'ils l'ignorent, que dans les pays où la stérilisation volontaire est couramment pratiquée, des enquêtes se sont penchées sur les regrets après coup. Aux États-Unis, où 10 millions de femmes ont déjà bénéficié d'une ligature de trompe ou d'une méthode de stérilisation par endoscopie, méthode Essure.
Oula, la méthode Essure, il date de quand déjà le bouquin ?
2016-2017.
Hein, parce que la méthode est sûre a été, pour des raisons, je veux dire, pratiques, plus que controversée, il y a eu des conséquences assez dramatiques, parce que c'est pas une bonne méthode. Pourtant, elle donne confiance. Une méthode qui s'appelle la méthode est sûre. Mais en fait, faut pas avoir confiance. C'est un truc qui a eu des conséquences assez dramatiques, en fait. Donc, en tant que méthode, hein. Donc voilà, c'est juste une parenthèse, mais je vous invite à aller faire une recherche sur la méthode est sûre. Voilà. Ça s'écrit E2SURE.
Alors, une enquête a été faite aux États-Unis où 10 millions de femmes ont déjà bénéficié d'une ligature de trompe ou d'une méthode de stérilisation. La proportion de regrets 15 ans après une stérilisation volontaire est faible et s'abaisse avec l'âge. Quand l'intervention a eu lieu avant 30 ans, elle s'élève à 20% des patientes. Après 30 ans, à moins de 7%. Cullins Vanessa, Sterilization, Long Term Issues, voilà, c'est une revue scientifique de 2008. Parmi les femmes qui expriment des regrets, moins de 10% demandent une réparation chirurgicale, autant dire une fraction intime de l'ensemble. Incidemment, on commence à voir apparaître dans les journaux anglo-saxons des articles sur les femmes exprimant leur regret d'avoir eu des enfants, ce qui suggère que la décision considérée comme normale ne l'est peut-être pas tant que cela. Même si l'on peut être circonspect devant une très jeune femme qui demande une ligature des trompes, il n'en reste pas moins vrai que 80% n'auront aucun regret et que sur les 20% qui en auront, un dixième, 2% au total des femmes opérées, demanderont une intervention de reconstruction.
Encore une fois, c'est pas la question, puisque savoir si elles auront des regrets ou non, encore une fois, et dans quelle proportion, même qu'elles seraient 50%, 80% à regretter après, ça les regarde. C'est leur corps, il leur appartient. Si elles veulent le débiter en rondelles, ça les regarde, hein, même. Enfin, je vois les choses à l'extrême, mais oui. c'est pas un truc que t'as, que le médecin ou même d'ailleurs l'entourage, bon, que l'entourage dise j'ai pas envie que tu te suicides à quelqu'un qu'il aime, ça, tu peux te dire que c'est assez logique, mais à la limite même je me dis le père, qu'il ait quand même son mot à dire par rapport à l'idée plutôt qu'un enfant naisse quand il a rien demandé, enfin, tu vois, ben ouais, ok, mais qu'il soit un peu concerné quand même. Mais autrement, les regrets ou pas regrets, on n'a même pas à savoir s'il y a des gens qui ont regretté.
C'est pas de la responsabilité.
Ça regarde la personne à qui le corps appartient. C'est un peu un truc un peu religieux quand même, cette idée, tu fais pas ce que tu veux avec ton corps, il t'appartient pas, il t'appartient. C'est tout, donc un truc qui t'appartient, tu t'en fais ce que tu veux. C'est pas... Tu en discutes même avec quelqu'un si t'as envie d'en discuter, mais si t'as pas envie, qu'on te dise « Ah oui, mais tu as 20% de chance de le regretter », tu dis même que j'aurais 90% de chance de le regretter, ça me regarde, voilà. Bon.
Je poursuis. Ces chiffres qui contredisent tout à fait les préjugés affichés par les praticiens. Si leurs prétentions reposent sur des inquiétudes, ces chiffres devraient les rassurer. Mais peine perdue, on dirait que dans l'esprit de beaucoup de gynécologues obstétriciens, préserver la fertilité des femmes, envers et contre la volonté de celles-ci, est une mission sacrée. De quelle église sont-ils donc les prêtres ? Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, vasectomie et ligature de trompe sont autorisées à titre contraceptif depuis le début des années 60. Dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas, la stérilisation volontaire est légale depuis au moins 30 ans, en 2016. Au Québec, où ligature des trompes et vasectomie sont légales depuis longtemps, et où le non-désir d'enfant est un choix de vie qui ne suscite aucun commentaire, l'attitude des médecins français déclenche toujours la même réaction. Mais de quoi se mêlent-ils ? Ils se mêlent de la vie des gens en se prenant pour des autorités morales.
Ben justement, puisque le fait de mettre en parallèle la vasectomie et la ligature des trompes, justement, je me posais la question parce que j'ai pas vraiment de réponse. Je ne sais pas comment réagissent vraiment, si c'est la même réaction envers un homme qui veut être stérilisé et envers une femme, parce que l'idée que c'est quand même la fonction première d'une femme, c'est la reproduction. Et le côté choquant, c'est un truc que tu vois par rapport aux femmes qui, quelle que soit la méthode à quoi elles recourent, simplement le fait de se débrouiller pour être sous pilule tout le temps, ou tu vois. Et les femmes, et moi à une époque, effectivement, je voulais pas d'enfants. Et en fait, t'as pas du tout le même type de réaction. Un homme qui veut pas d'enfant et une femme qui veut pas d'enfant, que ce soit de la part des médecins ou de l'entourage. On avait fait un débat d'ailleurs à Publico où c'était assez intéressant sur ce qu'on appelle les child free, les gens qui veulent pas d'enfant. Il y avait un documentaire et des gens étaient donc venus pour discuter de ça. Et malgré tout, il ressortait qu'il y avait pas du tout la même réaction envers des hommes qui veulent pas d'enfant et envers des femmes qui veulent pas d'enfant. Il y a quelque chose de plus blasphématoire dans l'idée d'une femme qui refuserait finalement sa féminité, quoi, tu vois. Alors que l'idée qu'un homme, il a mieux à faire, tu vois, c'est quelque chose. Et je me rappelle avoir vu le témoignage d'une... C'est une femme écrivain qui s'appelle Nicole Avril et qui a jamais voulu d'enfant. Et son mari, je me demande si c'était pas Jean-Pierre Elkabbach, quelqu'un comme ça. Enfin, les deux voulaient pas d'enfant, ça tombait bien. Mais elle disait, à chaque fois qu'on me fait une interview, comme elle était romancière, ça vient sur le tapis, ça vous a pas manqué d'avoir des enfants, etc. Elle dit, c'est bizarre, mais à mon mari, jamais. Pourtant, il en a pas voulu non plus. Ah oui. Mais personne se soucie même de savoir s'il en a. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose de particulier sur l'idée des femmes qui veulent pas d'enfants. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus à l'envers de ce qui est, de ce que t'es censé, de ce que doit vouloir une femme. C'est sa finalité et tout, tu vois. Voilà.
En avril 2016, sur le blog L'École des soignants, j'ai affiché, écrit Martin Winkler, des extraits d'un texte assez effrayant que m'avait envoyé Laura. Il s'agit d'un pseudonyme. Jeune femme française émigrée en Amérique du Nord. Il s'agissait d'un florilège, point d'exclamation entre parenthèses, de phrases prononcées par des médecins lorsqu'elle annonçait en France qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle n'en voulait pas et qu'elle avait l'intention de demander une ligature de trompe pour être certaine de ne jamais en avoir. Alors voici le florilège donc de phrases prononcées par des médecins. Si vous ne voulez plus avoir mal durant vos règles, faites des enfants. Si vous avez mal durant vos règles, c'est parce que votre corps réclame une grossesse. Vous auriez eu des enfants, vos syndromes prémenstruels ne seraient pas si forts. Votre problème de poids est lié à votre non-désir d'enfant. Faites un enfant, vous perdrez du poids. La femme comme vous, ça devrait se faire soigner. Et ça continue. Si vous ne voulez pas d'enfant, c'est que vous avez un problème avec votre mère. Il faut en parler à un psy. Je vais vous donner l'adresse d'un confrère. Si vous ne voulez pas d'enfant, c'est parce que votre mère ne vous a pas autorisé à être adulte et donc à devenir mère à votre tour. Vous n'êtes pas adulte, vous savez, vous êtes resté au stade adolescent. Et le mari, il en dit quoi, lui, de ne pas être père? Il est d'accord avec ça? Et le jour où il en voudra, vous ferez comment? Vous divorcez?
À part ça, je quand même, faut dire qu'effectivement, c'est quand même un peu difficile quand il y en a un qui en veut et puis l'autre qui en veut pas. Enfin, je veux dire oui. Quel que soit celui des deux, c'est vraiment pas facile. C'est un truc sur quoi faut quand même se mettre un peu d'accord. Et en particulier quand la femme, par exemple, des femmes qui vont vouloir un enfant et le faire malgré le malgré le non-désir du père, c'est quand même aussi un truc qu'ils évoquent pas, mais qui est un souci. Et si tu veux, sur l'histoire, par exemple, de la contraception masculine, qui est un truc qui est surtout l'idée comme ça de ceux qui veulent ou veulent pas d'enfants. Moi, je me disais, ouais, mais c'est pas bien la contraception masculine parce que, petit 1, j'aurais pas, enfin, mais il y a un mec qui m'avait répondu justement ça, quoi, par rapport au fait que ils veulent pas se faire, enfin, ils ont eu une mauvaise expérience, par exemple, de ce qu'on appelle un enfant dans le dos, c'est-à-dire que la femme, n'est-ce pas, malencontreusement oublié la pilule, enfin, un truc comme ça, quoi, ça arrive. Mais moi, j'avais pas vu cet aspect-là, parce que je vois les choses du point de vue féminin, mais ils ont pas tort, de ce point de vue-là, à la limite, tu fais les deux, quoi, tu vois. Parce que le truc, c'est que j'aurais pas confiance, tu vois. C'est, tu te dis, si moi je rate la pilule, c'est moi, c'est dans mon corps que ça va se passer, l'obligation d'aller se faire avorter, etc. Alors que le mec, enfin, tu vois, je serais vraiment très inquiète. T'es sûr que t'as bien pris ta petite pilule, mon chéri, tu vois. Et puis, effectivement, il y a un autre problème, c'est que pour les femmes, c'est que ça signifie que tu vas être. Ça marche que si t'as un partenaire, un seul. Je veux dire, tu vois, parce que sinon, c'est c'est embêtant. Et sinon, tu prends la pilule, oui, rassure-toi, etc. Tu vois. Je veux dire, c'est donc si tu veux, c'est vrai quand même que moi personnellement, je trouve que la question de quand il y a un père et une mère, effectivement, que tu fais pas un enfant quand le mec en veut pas et que si jamais lui il en veut et puis toi non et vice versa, ben que c'est quand même quelque chose qui au minimum peut au moins se discuter, quoi, tu vois. Mais de quoi se mêle le médecin, enfin voilà. Que le mec lui-même dise attends, j'ai mon mot à dire, c'est une chose, le médecin ta gueule, quoi. Enfin, voilà, ouais. Parenthèse.
Alors donc en suite de la liste de phrases prononcées par des médecins à l'annonce de cette jeune femme qui ne veut pas d'enfant. C'est le mari qui n'en veut pas, c'est ça. Vous savez, à notre époque, on n'obéit plus à son mari. Une pilule, ça s'oublie.
Oh.
Vous venez de vous séparer, c'est dommage, vous auriez fondé une famille et il ne vous aurait pas quitté. Ah, c'est vous qui l'avez quitté. Un enfant consolide un couple, vous savez.
C'est la meilleure.
À ce florilège de bêtises, on pourrait ajouter une phrase qui m'a plusieurs fois été rapportée. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas tout à fait une femme alors. Les commentaires agressifs ou méprisants ne suffisent pas. Divers groupes Facebook et forums Internet rapportent l'attitude commune des médecins face à la demande de stérilisation. Aux insultes et aux mépris s'ajoute le mensonge. Parmi les praticiens refusant de pratiquer des stérilisations, ce qui est leur droit, beaucoup affirment que ce geste est interdit par la loi, ce qui est faux, et que personne ne le fait en France, ce qui l'est aussi. Et ce n'est pas seulement un mensonge, c'est une hypocrisie. Bien avant la loi de 2001, des gynécologues et des urologues pratiquaient clandestinement ligature de trompe et vasectomie sur certains des patients qui le réclamaient. Et aussi, ce qui est monstrueux, des patientes qui n'avaient rien demandé. Depuis 30 ans, j'ai recueilli personnellement les confidences d'une vingtaine de femmes qui ont subi une stérilisation à leur insu, toujours dans les mêmes circonstances. C'était leur troisième ou quatrième grossesse, leur deuxième ou troisième césarienne. Alors qu'elles étaient encore sur la table, le plus souvent sous anesthésie générale, le chirurgien avait déclaré au compagnon ou au mari qu'une nouvelle grossesse serait dangereuse et lui avait demandé à lui l'autorisation de ligaturer ses trompes à elle. Chaque fois, le mari, habilement culpabilisé à l'idée de faire courir à son épouse le danger d'une grossesse supplémentaire, ou soulagé à l'idée de ne plus avoir d'enfant, avait accepté. Ces femmes s'étaient donc retrouvées stérilisées sans leur consentement. Certaines ne le regrettaient pas, d'autres si, mais toutes étaient en colère qu'on ait pris cette décision sans les consulter. On pourra me rétorquer que 20 femmes, ça n'est pas beaucoup, mais elles vivaient toutes dans des régions différentes et avaient subi leur stérilisation entre les années 70 et les années 2000.
Et puis en plus, juste une parenthèse, c'est possible qu'il y en ait beaucoup plus et que les femmes se soient simplement demandé pourquoi ça marchait plus, tu vois.
Eh bien, c'est ce qu'il dit au début. Ensuite, j'ai l'impression, on est en droit de penser que mon petit échantillon n'est pas une collection d'exceptions, mais le reflet d'une réalité beaucoup plus vaste, et qu'il s'agissait d'une pratique fréquente parmi les gynécologues obstétriciens français, conforme à une sorte de règle non écrite, mais peut-être tacite, dans certains services de CHU. Par prudence, mieux vaut stériliser toute femme ayant eu 3 césariennes. Quand le paternalisme médical n'ampute pas les seins des femmes, il se charge de les protéger des grossesses intempestives. Incompétence ou vanité. En 2003, le Nouvel Observateur me donnait carte blanche, écrit Martin Winkler, pour écrire un billet sur le sujet de mon choix. J'écrivis une diatribe très violente expliquant en substance que s'il y a encore plusieurs dizaines de milliers d'IVG chaque année en France, c'est parce que beaucoup de médecins français ne font pas leur boulot. Après avoir cité quelques exemples d'incompétences notoires en matière de contraception, je donnais quelques informations à l'intention des utilisatrices qui me liraient. Quelques semaines plus tard, je reçus par l'intermédiaire du Conseil de l'Ordre de mon département deux plaintes déposées par des confrères offusqués. Ils se plaignaient de la violence et de la mauvaise confraternité avec laquelle mon article était rédigé. Ils ajoutaient qu'en outre, j'y donnais des informations fausses. Je répondis par la même voie que mes obligations et ma loyauté allaient d'abord aux patients, ensuite seulement aux autres médecins, et que la déontologie m'imposait de dénoncer l'incompétence. Quant aux informations « fausses » entre guillemets qu'ils me reprochaient, je les invitais à consulter une douzaine d'articles scientifiques dont les références étaient jointes à mon courrier, validant mes affirmations.
Et eux-mêmes ne disaient pas quelles étaient les informations fausses en les rectifiant, je suppose. C'était une assertion comme ça, d'accord.
S'ils avaient des articles qui disaient le contraire, ils n'avaient qu'à me les envoyer, je les lirais avec intérêt. Je n'entendis plus jamais parler d'eux. Certes, les connaissances médicales évoluent sans cesse. Ce qui était vrai hier peut ne plus l'être aujourd'hui, et il n'est pas question ici de reprocher aux médecins de ne pas tout savoir. Ce qui peut leur être reproché, en revanche, c'est de ne pas tout faire pour remplir l'obligation de moyens que leur impose le code de déontologie. Quand un médecin est censé être le spécialiste d'une branche de la médecine, la moindre des choses serait qu'il se tienne au courant des notions les plus récentes et qu'il en fasse bénéficier les patientes dont il s'occupe. Mais l'enseignement médical, j'y reviendrai, est délivré de manière verticale, sans discussion, contestation ou dialogue possible. De sorte que beaucoup de médecins, après avoir passé de nombreuses années entre les quatre murs d'un CHU, reproduisent mécaniquement les habitudes héritées de leur maître sans chercher à les adapter à la pratique quotidienne et aux réalités des patients. Mettent-ils leurs connaissances à jour, comme le code de déontologie l'impose ? On est en droit d'en douter. Dans son numéro de mars-avril 2016, le magazine de jeunes médecins What's Up Doc révélait que la CSMF, l'un des principaux syndicats professionnels, s'opposait formellement à tout processus de recertification, autrement dit de contrôle périodique obligatoire des connaissances médicales. En Angleterre, les connaissances théoriques et pratiques des médecins sont vérifiées tous les 5 ans. Aux États-Unis, tous les 5 à 10 ans selon les spécialités. Et tout le monde s'y plie sous peine de se voir retirer son autorisation d'exercer. En France, la mise à jour des connaissances est incluse dans le code de déontologie, mais en pratique, elle n'est pas imposée. Et bien entendu, les lacunes ne sont jamais sanctionnés. Ce qui signifie en gros que tout médecin peut vraiment faire ce qu'il veut et, s'il le désire, n'en faire qu'à sa tête. L'incompétence n'est pas seulement faite d'ignorance, elle se nourrit et s'entretient d'une disposition d'esprit. L'incompétent peut soutenir mordicus que ce qu'il ne connaît pas n'existe pas. Il y a malheureusement beaucoup d'incompétents de ce genre dans le monde médical français. La principale responsable de cette déplorable réalité est la formation en faculté, dont il sera longuement question dans la troisième partie de ce livre. Et cette incompétence, largement répandue, ce sont les patients qui la paient au prix fort. Du geste déplacé au viol caractérisé. Quand j'ai commencé à assurer des consultations à l'hôpital du Mans, j'ai été frappé par le fait que beaucoup de patientes, dès leur entrée, se hâtaient de se dévêtir pour aller sans attendre s'allonger sur la table d'examen. Comme je les arrêtais et leur proposais de s'asseoir, elles étaient surprises. « Vous n'allez pas m'examiner et me faire un frottis ? Votre collègue, le docteur X, le fait toujours ?» Je me comportais à l'hôpital comme dans mon cabinet rural. Avant de demander aux patientes de se déshabiller, je voulais entendre ce qu'elles avaient à me dire. Mais pour beaucoup de ces femmes, les consultations de gynécologie commençaient toujours par le déshabillage, afin de ne pas perdre de temps. Une fois qu'elles étaient allongées, à demi ou entièrement nues, sur la table d'examen, le médecin pratiquait, sans un mot et de manière presque mécanique, un examen gynécologique et une palpation des seins, puis leur faisait signe de se rhabiller. quand elle revenait s'asseoir, l'ordonnance de renouvellement de pilules était déjà prête. L'un des premiers enseignements dispensés aux étudiants en médecine porte sur ce qu'on appelle l'examen clinique. Le corps dévêtu du patient doit être scruté attentivement, le ventre palpé, les articulations manipulées, le cœur et le poumon auscultés grâce à un stéthoscope. Bien sûr, il n'est pas toujours utile que le patient se déshabille entièrement et que le médecin l'examine sous toutes les coutures. Dans un grand nombre de situations, c'est même superflu. Mais quand on veut poser le diagnostic d'une maladie, l'examen clinique est bien entendu un moment important. Et aujourd'hui, malheureusement, un trop grand nombre de médecins omettent d'examiner les patients venus consulter pour un mal de ventre, une toux, une hanche douloureuse ou une gêne respiratoire. Ils préfèrent les envoyer directement à la radio ou prescrire une prise de sang, ce qui n'apporte pas du tout les mêmes informations. Or, ce qui est parfois refusé à des patients qui en ont besoin est trop souvent imposé sans nécessité à des patientes qui pourraient parfaitement s'en passer. Pour beaucoup de femmes en France, la consultation gynécologique annuelle est un rituel immuable, pour ne pas dire une obligation sacrée. Une idée très répandue veut en effet que toute femme subisse son premier examen gynécologique dès la survenue de ses premières règles et que, pendant toute sa vie et quoi qu'il arrive, elle soit examinée par un gynécologue au moins une fois par an sans faute, même si elle va parfaitement bien. Or, il s'agit d'une habitude injustifiée, mais malheureusement entretenue par le corps médical. Je ne compte pas les femmes de tous les âges qui m'ont raconté avoir été contraintes dès l'adolescence à se rendre au moins une fois par an chez le médecin, généraliste ou gynécologue, pour y subir ces examens à leur corps défendant. Elles étaient très surprises d'entendre que cette pratique était abusive. En effet, l'idée selon laquelle il faudrait pratiquer dès le début de l'activité sexuelle, puis tous les ans, un examen gynécologique, un examen des seins et un frottis pour ne pas passer à côté de quelque chose, sous-entendu un cancer du col, de l'ovaire ou des seins, est médicalement infondée, a fortiori pour les femmes de moins de 30 ans chez qui ces cancers sont très rares et ne sont de toute manière pas dépistés en consultation tout venant. Au Royaume-Uni, pays pionnier en matière de santé des femmes, le frottis de dépistage du cancer du col utérin est recommandé à partir de 25 ans, puis, s'il ne présente pas d'anomalie, tous les 3 ans, entre 25 et 49 ans, et tous les 5 ans, entre 49 et 64 ans. Et on n'y recommande pas la mammographie de dépistage avant 50 ans chez les femmes sans antécédent familial de cancer du sein. De plus, depuis 2007 en France, et depuis encore plus longtemps dans d'autres pays, l'examen gynécologique n'est plus considéré comme un prérequis pour la prescription ou le renouvellement d'une contraception hormonale. Une femme en bonne santé, n'ayant pas d'antécédent particulier, peut se faire prescrire une pilule sans autre examen que la prise de la pression artérielle. Et pour prescrire une pilule, le médecin peut recueillir auprès de la patiente toutes les informations dont il a besoin en lui posant quelques questions simples. S'il existe un doute, une prise de sang permettra de le lever, mais le plus souvent, elle n'est pas nécessaire. Et quand au bout d'un an, la patiente va bien, le médecin peut renouveler la prescription sans l'examiner. Pourquoi ? C'est très simple, si la femme va bien, la probabilité qu'il lui trouve quelque chose est quasi inexistante. Alors franchement, pourquoi l'enquiquiner ? D'abord, ne pas nuire. En mai 2016, sur ma toute chaîne YouTube, écrit Martin Winkler, j'ai posté une vidéo dans laquelle j'explique qu'imposer cet examen est inutile et abusif. Une jeune femme écrit ce commentaire. Eh bien, toutes les conneries que l'on me fait subir tous les ans depuis mes 17 ans. Et subir, c'est bien le mot, vu les douleurs infligées à quasiment chaque examen. D'ailleurs, les femmes devraient être mises au courant qu'il existe plusieurs taille de spéculum et pouvoir exiger un petit si ça fait mal, car on a le droit d'être sensible. Je compte déjà beaucoup de frottis et d'échographies externes et même internes alors que j'avais dit « non, ça fait mal ». Ah, mais il faudra bien y arriver à un moment. L'impression de ne pas être normal avec ça. Bonjour la confiance sexuelle après cela. Et l'humiliation de devoir se mettre entièrement nu avec certains. plus l'apport communiqué par ma mère aux lourds antécédents, fibrome, ablation des trompes et de l'utérus, cancer du sein. Donc je finissais par me les imposer, ces rendez-vous annuels, en y allant la boule au ventre. Les gens s'étonnent ensuite que j'ai développé une phobie des médecins et que j'hésite et stresse à l'idée d'aller les voir si je ne suis pas sûr qu'ils soient sympathiques. Fin de citation. Parfois, l'examen systématique masque des motivations sinistres. Il y a une dizaine d'années, une jeune généraliste me décrivait horrifiée la situation suivante. Deux adolescentes lui avaient déclaré que leur médecin, qui était aussi le maire de leur commune, leur imposait un examen gynécologique et un examen des seins tous les 3 mois. Les jeunes patientes le vivaient comme autant d'attouchements sexuels.
Et ils faisaient ça qu'avec les jeunes filles.
Apparemment.
C'est chelou quand même.
La généraliste leur avait conseillé d'écrire au conseil de l'ordre départemental sans grand espoir. Aucune de ces deux femmes ne semblait prête à accuser un si haut personnage.
J'ai vu récemment sur la chaîne parlementaire, il y avait le procès d'un médecin violeur. Mmh. Et pourtant, il y avait plusieurs femmes qui se sont plaintes. Et dans le documentaire, on voyait que l'ordre des médecins les avait déboutées. Et il disait que c'était pratiquement toujours le cas, dans le genre solidarité, que premièrement l'ordre des médecins serait un organisme très très réactionnaire, enfin c'est ce qu'il disait dans le documentaire, et que ensuite, ben par principe, ils étaient solidaires de leurs collègues avec l'idée, enfin que déjà les hommes qui disent on sait jamais si jamais j'étais accusé injustement par des pétasses, etc. Là quand même il y avait quand même vraiment plusieurs femmes, et ben ça n'a pas marché. Voilà, on les a pas écoutés et le mec s'en est sorti comme une fleur. Je sais pas si c'est pas elles qui ont eu des problèmes. Enfin bref.
Ouais. Ouais, ouais. L'ordre des médecins est, disons, l'organe est quasi essentiel du pouvoir médical en général. Dans un article de la revue Micro-Russe qu'on avait lu à l'antenne, on apprend que c'est un organisme qui est né sous le régime de Vichy.
Ah oui, d'accord. Donc,
ouais. Et que donc, oui, effectivement, il a tendance à protéger la corporation plutôt que distribuer les sanctions.
Au moins une interdiction d'exercer.
D'exercer, voilà. Oui, il vaut mieux porter plainte au tribunal, finalement, c'est peut-être mieux. C'est gratuit. En avril 2016, le docteur Pascal Dulster, ancien maire d'une commune du Pas-de-Calais, était condamné en appel à 12 ans de réclusion pour le vol de 2 patientes par la cour d'assises du Pas-de-Calais. On pouvait lire sur le site de France 3 « Collègue médecin, visiteuse médicale, babysitter ou élu au conseil municipal, des témoins se sont succédés tout au long de la semaine pour rappeler les gestes déplacés du docteur et ex-maire. Les faits incriminés se sont déroulés entre 1999 et 2004 concernant des patientes âgées de la vingtaine. J'ignore si le médecin dont m'avait parlé ma consœur et le maire du Pas-de-Calais sont une seule et même personne. S'il s'agit de 2 personnes différentes, c'est pire. Cela veut dire que l'autre est encore en activité. L'un des principes élémentaires de l'éthique biomédicale est « d'abord ne pas nuire ». L'article 36 du code de déontologie stipule « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». Même si tous les examens gynécologiques ne sont pas vécus comme des attouchements par les femmes, encore faudra-t-il leur demander ce qu'elles en pensent, imposer des gestes inutiles, c'est de toute manière de la mauvaise médecine. En user comme d'une condition à la délivrance d'une contraception est inadmissible. Le risque principal encouru par une femme en demande de contraception, c'est une grossesse non désirée, non un hypothétique cancer. Menacer peu ou prou une patiente de ne pas lui prescrire sa pilule si elle refuse d'être examinée, c'est du chantage, un abus de pouvoir et une escroquerie, puisque c'est aussi mentir sur les conditions médicales réelles de la prescription de contraception. Dans pareille situation, les infractions à l'éthique et au code de déontologie sont flagrantes et insupportables, et elles devraient pousser les patients à porter plainte. Il n'y a en effet pas de petite maltraitance.
Moi, quand je me... une première fois, quand j'avais 18 ans, quand je suis allée me faire prescrire la pilule, et en effet, je suis tombée sur un médecin qui avait de cesse que d'essayer de me dissuader de baiser, quoi, tout simplement. Et mais ouais, vous n'êtes pas bien jeune pour ça, et puis si vraiment vous y tenez, la pilule, vous savez, ça donne le cancer. Et il faut quand même dire une chose, hein, par rapport à tous ceux qui, par exemple, j'ai entendu des fois des gens qui, je me rappelle par exemple d'un débat qu'on avait fait par rapport, c'était par rapport aux antithèques et tout pour contre. Enfin, nous on était plutôt, contre les antithèques, mais enfin bon, on était venu discuter et il y avait un mec qui a dit que il fallait pas prendre la pilule, c'était super mauvais pour la santé. Il fallait prendre une tisane que des femmes des Andes, je crois bien, qui étaient super efficaces. Et je te raconte pas le tollé des des femmes dans l'assistance, parce que le truc, c'est que ça peut paraître dingue, peut-être pour je sais pas, pour des hommes par exemple, mais le fait est qu'on était prête, en parlant de c'est mon corps, je fais ce que je veux, pour ne pas être enceinte, des femmes, avant qu'il y ait le droit à l'avortement, prenaient le risque de mourir, d'être mutilées, de mourir. Et quant au risque de tu préfères ne pas avoir le cancer et pas avoir d'enfant non plus, mais ça peut paraître dingue, mais à choisir, tu préfères prendre le risque du cancer plutôt que le risque d'avoir un enfant. Quand tu veux pas d'enfant, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement radical, si tu veux, comme non-désir, que ben c'est toi que ça regarde, mais au moins que, en effet, comme il l'a dit plus loin, Martin Winkler, que tu sois averti. Mais tu sais, quand tu prends un médicament, tu pèses les bénéfices et les risques. Dans la posologie, il y en a long comme le bras, des risques que tu prends quand tu prends n'importe quel médicament. Donc, je veux dire, il faut que tu sois averti, mais c'est toi qui vois. J'ai dit, je sais pas, moi je suis prête à prendre le risque du cancer. Je préfère prendre le risque du cancer que le risque du bébé. Ça peut paraître dingue, mais c'est du moment que tu es averti, c'est toi que ça regarde, quoi, tout simplement. Voilà.
On est toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, et bon, c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Nous sommes en train de livrer et commenter le livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc, chapitre 2. La liberté de prescrire, entre guillemets, à leur guise, il importe à ce stade de faire un sort à un privilège revendiqué haut et fort par bon nombre de médecins français, à savoir leur, entre guillemets, liberté de prescription. Le code de déontologie précise, article 5 R4127-5 du CSP, du code de la santé publique, le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Autrement dit, un médecin ne doit jamais prescrire sous la pression d'un tiers, ni, entre guillemets, monnayer ses prescriptions. C'est la forme première du conflit d'intérêts. En France, un nombre phénoménal de médecins reçoivent, sous une forme ou sur une autre, des incitations à prescrire de la part des industriels du médicament.
Ça rappelle une série d'émissions qu'on avait fait autour des inventeurs de maladies. Oui.
Voilà. Les poursuit-on en justice pour autant ? Leur interdit-on d'exercer ? Non. Dans les pays anglo-saxons, un nombre croissant de revues, d'associations, de facultés et de groupes professionnels prennent leur distance avec l'industrie. En France, en revanche, servir de cible, de faire valoir ou de porte-parole à un industriel n'est pas considéré comme une aliénation, ni par l'ordre des médecins, ni bien entendu par les premiers intéressés. Un rapport de 80 pages remis en mars 2016 à Martin Hirsch, directeur de l'APHP, montre cependant que les conflits d'intérêts sont légion au sein de la principale entreprise publique de santé de France. Les dix conflits d'intérêts concernent tous les domaines d'influence des médecins hospitaliers. Consultation d'expertise, expertise entre guillemets, recherche, conférence, rédaction d'articles et de livres, avis, entre guillemets, sur les médicaments et les dispositifs médicaux, contrats publics, gestion du patrimoine et, bien entendu, enseignement. Le rapport révèle qu'ailleurs, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Suède, les conflits d'intérêts sont pris en compte depuis longtemps et font l'objet de mesures préventives par les institutions. Or, les hôpitaux publics de l'APHP sont depuis toujours considérés comme le joyau de la médecine française, de sa recherche et de son enseignement. Ils servent de modèle à tous les médecins de France. La curieuse conception de l'indépendance manifestée par ses membres ne présage donc rien de bon sur la mentalité de la profession dans l'ensemble du pays. Certains praticiens, même quand ils sont pris la main dans le sac, plaident, on croit rêver en lisant le rapport, leur méconnaissance des textes s'agissant de l'influence possible des industriels. D'autres, en très grand nombre, revendiquent leur liberté de prescription et leur indépendance professionnelle dès qu'il s'agit de refuser un soin aux patients. En résumé, je ne savais pas que je ne devais pas servir de levier à l'industrie, mais n'ayez crainte, je ne fais pas tout ce que les patients me demandent. Voilà qui nous rassure tout à fait. Pour justifier des refus injustifiables, certains se réfugient derrière des clauses de conscience qui n'existent pas. En France, la loi reconnaît des clauses de conscience dans trois situations bien précises. La demande d'IVG, la demande de stérilisation et la recherche sur les embryons humains. Invoquer la clause de conscience, c'est dire « en raison de mes convictions morales ou religieuses, je ne peux pas faire ce geste ». C'est parfaitement respectable, mais cela ne signifie en aucune manière « je peux m'opposer à ce que vous obteniez ce geste ». En revanche, un médecin n'a aucune clause de conscience à invoquer quand une femme lui demande une contraception qui ne lui plaît pas. La liberté de prescription n'est pas, et en aucune manière, la liberté de s'opposer à la délivrance d'un service autorisé par la loi. La liberté de prescrire ne devrait en aucune manière être utilisée contre l'intérêt des patients. Encore faudrait-il que cet intérêt prévale dans l'esprit de tous les médecins. Voilà, et on passe au sous-chapitre suivant. Intitule « Maladie méconnue, malade méprisée, souffrance négligée ». Aujourd'hui en France, malgré la loi, on laisse encore beaucoup de gens souffrir au quotidien. Certes, au cours des 15 dernières années, on a vu des consultations de la douleur apparaître dans nombre d'hôpitaux français. Originellement destinées à traiter en dernier recours les douleurs rebelles, c'est-à-dire non soulagées par les traitements habituels, elles servent en réalité souvent de premier recours à des patients dont on n'a pas pris les douleurs en compte, qu'il s'agisse de maux de tête ou de douleurs articulaires. Un médecin consultant dans un centre de la douleur me confiait ainsi récemment que beaucoup de ces patients auraient pu être facilement soignés par leurs médecins habituels, mais que ceux-ci ne semblaient manifestement pas intéressés par ce type de soins. Cette insensibilité à la douleur des patients, que manifestent nombre de médecins, ne date pas d'hier. Elle repose souvent sur des idées reçues, des préjugés et une grande ignorance. Lorsque je me suis installé à la campagne, j'ai souvent été sollicité par des femmes qui venaient me parler de leur crise de foie. Une fois par mois, quand ce n'était pas toutes les semaines, elles vomissaient tripes et boyaux et s'enfermaient dans leur chambre à l'abri du bruit et de la lumière, parfois une journée entière avec un mal de tête carabiné. Toutes souffraient depuis l'adolescence. Souvent, leur mère ou leur sœur avait la même chose. Mais ça s'est arrêté avec ces règles. Des fois, j'ai vraiment envie d'être ménopausée. Citation. Et leur médecin les soignait très souvent avec des médicaments pour le foie. Inefficaces, bien entendu. Car à leurs yeux, ces femmes souffraient de crise de foie. Or, la crise de foie n'existe pas. C'est une invention franco-française qui a aujourd'hui disparu du vocabulaire médical, en principe. Ce sont en réalité des migraines accompagnées et souvent précédées de troubles digestifs. Des migraines surviennent souvent au moment des règles en question de la baisse brutale des hormones en fin de cycle. Ce syndrome de sevrage chez des femmes prédisposées provoque des maux de tête et ou un syndrome prémenstruel, voire les deux. Aucun médicament pour le foie n'y fera rien, bien sûr. Mais il y a des traitements spécifiques de la migraine, soit pour interrompre une crise débutante, soit pour prévenir ces crises, quand on a fait le diagnostic. Chaque fois que je parlais de migraine, les femmes me regardaient avec surprise. On ne leur avait jamais expliqué ça, ni proposé de soulagement. ce n'était pourtant pas de la médecine complexe. Le fait est que lorsqu'un symptôme survient en lien avec le cycle menstruel, beaucoup de médecins, mais aussi, il faut le reconnaître, beaucoup de membres de l'entourage de la femme, le considèrent comme dénué de signification. Une adolescente souffre le martyr au moment de ses règles, pendant, mais aussi plusieurs jours après. Sa mère compatit, mais lui dit « C'est comme ça, il faut y faire, pour moi c'était la même chose, et pour ma mère c'était pareil. » Elle en parle vaguement à son médecin qui prescrit des antidouleurs et une bouillotte chaude. La mère a une bonne excuse. On l'a traitée de la même manière quand ça lui est arrivé. Le médecin, lui, fait une faute professionnelle. Il est peut-être en train de passer à côté d'une endométriose. Cette maladie est liée au passage anormal des règles dans les trompes et l'abdomen. Les femmes qui en souffrent ont des douleurs chroniques et rencontrent des problèmes de fertilité. Et on leur reproche leur humeur instable. C'était le cas de Marilyn Monroe, que tout Hollywood qualifiait de personnalité difficile et qui fut opérée plusieurs fois. On ne connut la vérité de son état que bien après sa mort, grâce à un biographe qui avait eu accès à son dossier médical. L'endométriose atteint 2 femmes sur 10 et reste pourtant souvent négligée par le corps médical. Souffrir pendant ses règles, c'est normal. Une femme médecin du travail me raconta qu'elle avait souffert sans traitement pendant plusieurs années parce que les spécialistes ne l'avaient pas prise au sérieux. Comme elle était médecin, ils la traitaient d'hypochondriaque. Mais comment s'étonner, s'agissant d'une profession pour qui la douleur est d'abord un symptôme utile au diagnostic et non une souffrance à soulager, et à qui on a répété qu'il faut surtout ne pas croire tout ce que disent les patients. La liste est longue des syndromes et maladies mésestimés par les médecins, en particulier les syndromes douloureux chroniques tels la fibromyalgie. Celle-ci valut longtemps et vaut encore à bon nombre de patientes le qualificatif de pusillanime, car elle souffre d'une hypersensibilité au toucher, de simulatrice et de paresseuse chronique. Le syndrome s'accompagne d'une fatigue intense, ou bien entendu de psy. Les personnes atteintes de maladies rares qu'un médecin peut ne pas connaître ne sont jamais crues précisément pour cela. Leur maladie n'est pas enseignée, donc elle n'existe pas. Je vous invite à aller consulter « Vivre avec », le blog de Margot, une jeune femme souffrant de syndrome de Ehlers-Danlos, Hermine Sed.wordpress.com. Hermine avec un H, oui. Dans une vidéo saisissante portée sur YouTube sous le titre « Sed dans la tête et autres réflexions sur la douleur », elle raconte l'attitude méprisante, blessante et souvent insultante qu'ont eu les médecins quand elle est allée les consulter. La situation de Margot est celle de beaucoup de patients atteints de syndromes mal identifiés ou peu connus. Et c'est un signe de ce qui pêche le plus profondément dans la profession médicale en France. Ce n'est pas son ignorance, personne ne peut tout savoir, mais son inaptitude à écouter, à croire et à prendre le parti des patients, même quand on ne comprend pas ce qui leur arrive, et même si leurs symptômes n'entrent pas dans les, entre guillemets, cases qu'on leur a inculquées.
Et puis c'est aussi une inaptitude à reconnaître qu'ils ne savent pas tout. Je veux dire, à dire simplement, je ne sais pas.
Oui. Très difficile, oui, parfois, de dire je ne sais pas pour le médecin. La motivation première d'une profession soignante, lorsqu'une personne souffre et demande de l'aide, est de la lui apporter sans réserve. En France, ce souci ne semble pas habiter tous les praticiens, puisque nombreux sont ceux qui, en revanche, n'hésitent pas à harceler moralement et médicalement plusieurs catégories de personnes en grande difficulté. Voilà, et là, on vient de finir le chapitre 2, et on passera donc au chapitre 3 intitulé « Sexisme, racisme et intolérance ».
Qu'on découvrira en même temps que vous, comme d'habitude.
Eh bien voilà, donc bah, je te laisse refaire l'annonce que tu as fait au début.
Ah oui, et donc
puis, je dirai au revoir.
Voilà, je peux vous donner rendez-vous, donc le groupe Libertaire d'Ivry, donc dont je fais partie, organise une discussion, une projection de discussion du dessin animé La Ferme des Animaux, un vraiment excellent dessin animé qui est, il est ancien mais j'arrive pas à me rappeler là, j'arrive pas à me rappeler. De quand il date, mais bon.
Oui, c'est
ah, il est là. Attends, j'ai l'annonce. Donc, c'est pas marqué sur l'invitation. Mais enfin, bon, il est très bon. Et donc, on fera une discussion sur... c'est d'après le livre d'Orwell, La Ferme des Animaux. Et donc, c'est une... la discussion portera sur comment lutter contre toutes les formes de pouvoir démocratique, entre guillemets, et fasciste, ou communiste autoritaire. Et donc, voilà, c'est le dimanche 14 septembre à 16h pour la projection, mais l'accueil, ce sera à partir de 15h. De toute façon, la librairie est ouverte le dimanche, la librairie Publico, donc où ça a lieu, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75-011 Paris, métro République Oberkampf-Fille du Calvaire. Donc, de toute façon, elle est ouverte... elle est ouverte à partir de 14h, je crois. Peut-être même avant, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. En tout cas, elle est ouverte le dimanche, la librairie du Monde Libertaire. Et donc là, elle sera ouverte de toute façon. Et on vous accueillera. Et donc, ce sera une discussion. Hein, pas une. Il n'y aura pas de conférence ou un débat très... C'est vraiment une discussion. Voilà. Donc, l'entrée est libre. Et c'est le dimanche 14 septembre.
Ouais, c'est un film qui doit dater au plus tard des années 70.
Pardon ?
C'est un film qui doit dater au plus tard.
Non, il date de bien plus vieux que ça, des années 50.
Ah oui, oui, d'accord.
Oui, bien sûr. Non, c'est peut-être même peut-être plus ancien. Okay. Les années 50, en tout cas.
Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et on va écouter maintenant Un rayon de soleil, l'émission de Radio Libertaire Méditerranée.